Bonsoir à toutes et à tous dans ce France Bleu Soir, la rentrée qui se profile et avec elle son lot de fournitures scolaires, un budget que les familles prévoient à l'avance, surtout celles qui ne touchent pas l'allocation ARS, c'est ce qu'on verra dans un supermarché de Cherbourg. Malgré le paquet neutre, les ventes de cigarettes ne baissent pas, au contraire, 9% de hausse depuis janvier. Mathilde Chouin, ça inquiète les médecins ?
Non, parce que pour eux, les efforts vont arriver, mais plus tard.
La police de proximité va faire son retour d'ici la fin de l'année. Elle avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. On ira à Toulouse voir ce qu'en pensent les habitants du quartier du Mirail. Le tweet le plus liké de l'histoire, Barack Obama bat tous les records avec son appel à la tolérance en réponse à l'affaire de Charlottesville aux États-Unis. On ira à Naples où Nice joue ce soir son match aller de barrage en Ligue des Champions. Et puis Michel Berger, mort il y a 25 ans, fait l'objet d'un documentaire ce soir sur W9. Ce sera pour nous l'occasion de réécouter ses plus beaux titres. Rendez-vous en fin de journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Frédéric Dorel.
Mais d'abord, pas de SMS au volant, on le redit ce soir à l'occasion de cette affaire jugée aujourd'hui à Valenciennes. Une jeune femme de 23 ans comparaissait pour avoir causé la mort d'une vieille dame, sans doute à cause d'un texto de trop. Stéphane Barbereau.
Jusqu'à ce 16 avril, Allison était une conductrice modèle. 3 années de permis, aucune infraction. Enfin, modèle, pas tant que ça. La prévenue au visage enfantin reconnaît utiliser régulièrement son portable au volant. Et 8 minutes avant l'accident, elle envoie un texto alors qu'elle conduit. Pile au moment du choc, elle reçoit la réponse de son amie. « Vous aurez du mal à me faire croire que vous n'étiez pas curieuse de voir le SMS », lui dit soupçonneuse la procureure. Avant, je reconnais avoir envoyé un message, mais lors de l'accident, je ne l'ai pas consulté, se défend la prévenue. Elle s'excuse, se qualifie elle-même d'irresponsable et plaide l'endormissement au volant. La magistrate est sceptique. Vous envoyez un SMS et quelques minutes plus tard, vous tombez dans un sommeil profond. Pour la magistrate, prendre le volant fatigué est également irresponsable, puisqu'Alison voyage avec son fils de 6 mois à l'arrière. Ce jour-là, elle était debout depuis 12 heures, explique son avocate, et elle commençait donc une deuxième journée. Ce jour-là, elle a peut-être regardé le texto de son amie, la fois de trop, qui a coûté la vie à une femme de 84 ans.
Jugement le 17 octobre, Stéphane Barbereau, France Bleu Nord. À Nantes, 2 ans et demi de prison ferme pour un jeune de 20 ans qui a tué une mère de famille et sa fille de 5 ans l'automne dernier. Il circulait sans permis et sans assurance. Toute l'histoire est sur notre site internet francebleu.fr. Quant au déséquilibré qui a foncé sur une pizzeria lundi en Seine-et-Marne, faisant 1 mort et 12 blessés, il doit être mis en examen dans les minutes qui viennent. L'homme âgé de 32 ans est au tribunal de Meaux actuellement, où il attend d'être présenté à un juge. La route, toujours, attention, elle sera chargée vendredi et samedi. Bison Futé prévoit un trafic très dense dans le sens des retours et dans une moindre mesure dans le sens des départs. Tout le pays est concerné, mais ce sera pire en région Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Il y aura d'ailleurs encore de la circulation dimanche un peu partout dans le pays. La rentrée approche, on ne va pas vous gâcher la fin des vacances avec ça, mais il faut y penser. Près de 3 millions de familles les plus modestes vont toucher l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, entre 3 et 400 euros par enfant, selon qu'il est en primaire, au collège ou au lycée. Le problème, c'est que le seuil de cette allocation est assez bas et qu'elle fait des envieux donc chez ceux qui sont juste au-dessus. Benoît Martin l'a constaté à Cherbourg.
Dans les rayons d'une grande surface cherbourgeoise, ils sont déjà nombreux, la tête penchée sur les listes de fournitures scolaires.
On essaye de faire plaisir, mais en regardant le prix, quoi.
Et oui, car la rentrée, ça a un coût, rappelle Sylvie, maman d'un lycéen.
C'est très cher, une rentrée. C'est un budget. 300 euros, 300, 400 euros. C'est pas plus. On avait prévu plus ou moins. Et on avait coté, vraiment, on est mal.
Heureusement, pour les foyers les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire représente un vrai coup de pouce. Dominique a 2 enfants et va toucher 761 euros d'aide.
Voilà. De rentrée scolaire est faite que pour mes enfants, donc voilà, je m'en sers que pour les enfants. Moi je la trouve suffisante, voilà, elle rentre au lycée ma grande et j'en ai largement assez pour elle sa rentrée.
Finalement, ceux qui sont les plus regardants sur les prix, ce sont les parents qui n'ont pas droit à l'allocation parce que leurs revenus sont juste au-dessus des seuils fixés. Sans aide, Caroline et Denis ont dû anticiper la rentrée et ses dépenses.
Quand on a 3 enfants, ça fait cher. 2 au collège, 1 au lycée, c'est énorme, c'est énorme. On a le droit à rien, alors du coup, c'est plein pot pour nous.
C'est vrai qu'on peut dire qu'il faut faire très attention en vacances pour justement prévoir la rentrée. On ne peut pas se permettre des vacances, des extras en vacances pour... qu'au début de l'année, on ait ce qu'il faut pour pouvoir payer tout aux enfants. Quoi.
Avec 3 enfants, un foyer dont le revenu mensuel dépasse de 1972 euros doit se passer de l'allocation. pas toujours évident.
Benoît Martin, France Bleu Cotentin. Et donc, si on a bien suivi, avec trois enfants, il faut gagner moins de 3 000 euros à deux pour toucher cette allocation de rentrée scolaire. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour la santé publique. Les ventes de tabac ne baissent pas, les ventes de cigarettes en tout cas, depuis l'instauration du paquet neutre. Au contraire, elles ont augmenté de 9% depuis janvier. Mathilde Chouin, ça veut dire que les images de dents abîmées et d'enfants qui fument n'ont pas d'effet répulsif sur les fumeurs?
Si elles ne sont agréables à voir pour personne, elles n'empêchent en aucun cas les fumeurs de continuer à acheter des paquets. Entre le 1er janvier et le 31 juillet, les 5000 buralistes du pays ont vendu, tenez-vous bien Frédéric, près de 360 millions de cigarettes supplémentaires.
360 millions
oui, c'est énorme.
De plus, malgré donc ces nouveaux paquets sans logo ni couleur.
Les ventes s'accélèrent même en mars, en mai et en juin. En juin où la barre des 4 milliards de cigarettes vendues est franchie pour la première fois de l'année.
Les paquets neutres donc sont clairement inefficaces.
Pourtant le dernier gouvernement comptait vraiment sur ces paquets neutres, notamment pour dissuader les jeunes de fumer et pour amplifier la chute des ventes constatée l'année dernière.
C'est raté, hein ?
Du moins pour le moment. Les médecins ne sont pas étonnés par ces chiffres. Pour eux, ça ne peut pas diminuer immédiatement. Les effets seront visibles à long terme. Le paquet neutre est fait pour que les jeunes ne commencent pas à fumer et ne s'habituent pas dès le plus jeune âge aux marques de cigarettes.
Ça n'empêche, le nouveau gouvernement va utiliser un autre levier du coup, pour parvenir à ses fins.
Le prix. Il veut passer du paquet de cigarettes de 7 à 10 euros d'ici 2020, donc d'ici 3 ans. D'ailleurs, c'est une mesure très attendue justement par les médecins.
Une mesure qui n'est pas sans risque.
Le marché noir risque encore de se développer, notamment dans les pays frontaliers. Il représente déjà 30% aujourd'hui en France.
Et le tabac, lui, est responsable de 80 000 décès par an. Merci Mathilde Chouin. France Bleu Soir, il est 19h07. Avant de vous parler des animaux qui pourraient disparaître des cirques, les animaux sauvages en tout cas, avant d'aller à Naples où Nice joue ce soir son match aller de barrage en Ligue des Champions, on va faire un tour dans les commissariats. Gérard Collomb prévoit le retour de la police de proximité à la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur suit ainsi la promesse du candidat Macron, faire revenir la prévention dans les quartiers, instituée par Lionel Jospin. Cette politique avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. Alors qu'en pensent ceux qui vivent dans ces quartiers où l'on côtoie le trafic de drogue et la violence au quotidien? Frédéric Bourgade est allé poser la question au Mirail, puisque c'est à Toulouse que Nicolas Sarkozy en avait annoncé la fin.
Une police de proximité, l'idée séduit Abdelmalek du quartier Bellefontaine.
Franchement, une police de quartier, ça sera vraiment bien. Parce que le quartier, ça part en couille en ce moment. En un mois, on a deux meurtres, ça nous fait peur aussi à nous. On a besoin de la sécurité.
Cette police de quartier a pourtant déjà existé, mais en 2003, Nicolas Sarkozy l'a supprimée. Le rôle d'un policier, disait-il en substance, n'est pas de jouer au football avec les habitants. Elle était pourtant utile, se souvient Kader.
On connaissait tous les petits jeunes, ils étaient sensibles à la délinquance et déjà ils tiraient le signal d'alarme, ils allaient prévenir les parents. Ça permet de les connaître, ça manque ici en tout cas.
Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, veut la refonder et Chantal, infirmière libérale, estime que c'est une bonne chose.
Moi, je travaille ici depuis plusieurs années. On ne voit la police que pour des interventions. Il y a des endroits, il y a de la drogue, les guetteurs. Des fois, je suis inquiète.
Est-ce qu'une police de proximité vous sécuriserait?
Oui, de savoir qu'il y a des policiers qui tournent dans le quartier, oui.
D'autant qu'en 20 ans, les tensions sont devenues la règle entre jeunes et policiers. La proximité serait donc un outil de prévention, analyse Nadjat, responsable d'association.
Ça peut être un policier éducateur. Ça arriver systématiquement à la répression par rapport à la police nationale qui rappelle la loi, qui sanctionne. La proximité peut-être fera jouer un peu plus de prévention.
La parole de Toulousain recueillie par Frédéric Bourgade au Mirail. Les animaux sauvages risquent-ils de disparaître des cirques? C'est la crainte d'un collectif de cirques, en tout cas collectif, qui vient d'écrire à Emmanuel Macron pour court-circuiter Nicolas Hulot. Il y a 15 jours, le ministre de la Transition écologique s'est prononcé contre la captivité des animaux. Cette fédération des cirques de tradition estime donc que vouloir libérer les animaux est une utopie. Aux États-Unis, la crise de Charlottesville continue d'ébranler la Maison Blanche. Les dernières déclarations de Donald Trump, renvoyant dos à dos les suprématistes blancs et les antiracistes, pourraient marquer un tournant de sa présidence. Des conseillers s'en vont, le camp républicain s'inquiète et à l'étranger, les réactions sont nombreuses pour dénoncer ce soutien du président au camp néo-nazi alors qu'une militante des droits de l'homme a été tuée samedi. Autre signe, un tweet de Barack Obama fait le buzz, comme on dit. Plus de 3 millions de likes en quelques heures, c'est du jamais vu. Avec une citation de Nelson Mandela, « Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ». Pour Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique, l'ancien président montre qu'il reste vigilant sur les lignes rouges à ne pas franchir.
Barack Obama utilise Twitter de façon assez régulière pour diffuser des messages et capitaliser sur la notoriété qu'il a acquise grâce à ses deux mandats. Donc effectivement, les réseaux sociaux sont un puissant outil de communication politique, même en dehors d'un mandat électif. Barack Obama utilise Twitter d'autant plus qu'il sait que Donald Trump l'utilise énormément et qu'il ne veut pas lui laisser place nette sur ce support, et que Barack Obama, qui lui-même a été l'initiateur finalement de l'usage intensif de Twitter comme outil de communication politique pour le président des États-Unis, ne veut pas que Donald Trump le supplée là-dessus. Et donc effectivement, je crois qu'on serait au football, on pourrait parler de marquage à la culotte. Il me semble qu'il utilise d'autant plus Twitter qu'il sait que Donald Trump l'utilise comme outil d'influence, et donc lui, il l'utilise comme outil de contre-influence face à Donald Trump.
Arnaud Mercier, professeur en communication politique à l'université d'Assas à Paris. Pas facile les vacances de ministre. Le site Mediapart accuse Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, et son collègue Sébastien Lecornu d'avoir loué une villa en Corse appartenant à Gilbert Casanova, ancien président de la Chambre de commerce, mais condamné pour trafic de drogue en 2010. Les deux membres du gouvernement répliquent en portant plainte. Ils disent avoir loué cette maison via le site Homelydays et affirment que le bail n'est pas au nom de Gilbert Casanova, mais de celui de son ancienne épouse. Nice joue à Naples ce soir en barrage de Ligue des Champions. C'est du foot, bien sûr, et c'est le match aller ce soir. Sur le plan sportif, ce sera compliqué, et côté ambiance, ça promet d'être chaud également. Jean-Baptiste Marie, vous êtes sur place. Il n'y a pas un seul Niçois dans les tribunes.
Ah oui, ils ont été interdits par les autorités italiennes, les supporters du GIM, alors qu'ils étaient 2000 il y a deux semaines à Amsterdam pour la qualification de l'OGC Nice pour le barrage de Ligue des Champions qui se joue ce soir. Le match aller ici au stade San Paolo, un stade qui est resté dans son jus. Il a été inauguré en 1959, il y a eu une petite rénovation, mais il est vraiment très ancien ce stade. Le stade qui a vu jouer Maradona dans les années 80. Évidemment, Maradona n'est plus là, mais la jeune équipe napolitaine, en tout cas les descendants de Maradona en quelque sorte, sont présents eux et auront évidemment le soutien de plus de 55 000 tifosi qui seront dans ce stade San Paolo. Ça sera difficile pour les 11 Niçois qui seront sur le terrain, puisque sportivement évidemment c'est Naples qui est favori pour ce match face à l'OGC Nice. L'OGC Nice qui retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis 60 ans. Les joueurs de Lucien Favre auront fort à faire, mais ils ont réussi à créer l'exploit contre Amsterdam il y a 15 jours. Alors pourquoi pas y croire encore?
Mais oui, pourquoi pas. Merci Jean-Baptiste Marie-France. France Bleu Azur, en direct donc du stade San Paolo. Le coup d'envoi de ce Naples-Nice sera donné à 20h45. Et les amateurs de foot pourront ensuite se régaler également avec la finale de la Supercoupe d'Espagne. Real Barça, c'est à partir de 23h. Et puis pour ceux qui préfèrent la musique, Michel Berger sera à l'honneur ce soir sur W9 avec un documentaire sur sa vie et tous les tubes qu'il a laissés derrière lui.
Rejoins le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Mais Dieu, que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Je veux chanter pour ceux qui sont loin.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.